Bonsoir frères et sœurs, bonsoir amis, vous qui êtes de passage, vous qui venez pour les premières fois, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus. Voilà, c'est une occasion ce soir toute particulière, toute favorable pour rencontrer Jésus. Ce Jésus que nous venons de chanter, ce soir c'est une occasion favorable de découvrir qui il est vraiment. Pas ce qu'on entend de, lui dans le monde, mais découvrir au travers des paroles de la Bible, des évangiles, qui est Jésus? Qui est vraiment Jésus? Alors avant de continuer, j'aimerais encore prier le Seigneur, s'il vous plaît. Seigneur, merci pour ce temps si particulier où nous pouvons être là à l'écoute de ta parole. Nous croyons qu'elle est la vérité. Nous croyons qu'elle est une lumière sur notre sentier, qu'elle est une lampe à nos pieds, Seigneur. Quand le chemin devient encore plus resserré, que les ténèbres, Seigneur, s'épaississent, nous croyons que ta parole, elle est toujours efficace, pour éclairer notre conscience, éclairer notre âme, éclairer nos cœurs et nous dévoiler ta volonté à notre égard, à l'égard de tous. Et ce soir, nous te prions pour que ta parole nous dévoile encore un peu plus ta personne, nous dévoile un peu plus ta volonté à nos égards et que ton nom en retour soit glorifié. Seigneur, tu vois ce qu'il a sur mon cœur, je veux le partager simplement. Seigneur, assiste-nous par ton esprit. Nous croyons que c'est ton esprit qui convainc les cœurs de justice, de péché, de jugement. Alors, Seigneur, que ta grâce soit sur nous ce soir. Que ces moments ne soient pas vécus en vain, mais qu'ils témoignent de la gloire de ton nom. Amen, Seigneur Jésus. Amen. Jésus guérit, Jésus délivre. Est-ce que vous avez déjà entendu ces paroles? Oui? Oui? Tout le monde? Alors, c'est des paroles que nous répétons, et non pas selon la méthode Coué, mais nous les répétons parce que nous les croyons. Nous croyons que Jésus guérit encore aujourd'hui. Et c'est une affirmation glorieuse, c'est vrai. Le Seigneur veut encore guérir ce soir. Il veut encore délivrer. C'est sa volonté à notre égard. Mais nous allons voir ce soir que si Dieu veut guérir, si Dieu veut faire du bien, Dieu ne veut pas que ça. Il veut plus. Et parfois, dans notre souffrance, dans notre misère, entre guillemets, quand nous passons par des moments difficiles, quand nous ne réalisons pas notre état, de pécheur, eh bien nous passons à côté de ce que Dieu voudrait nous accorder. Et je voudrais que ce soir, véritablement ce soir, nous puissions vivre un temps spécial dans la présence de Dieu et réaliser que Dieu veut beaucoup plus que nous guérir. Il veut véritablement faire de nous une personne nouvelle. Nous accorder la grâce d'être entièrement délivré de la puissance du péché, entièrement délivré de l'influence du monde et vivre selon sa grâce. C'est la volonté de Dieu, délivrer les captifs. Et peut-être être au clair là-dessus, nous allons lire dans l'évangile de Luc au chapitre 4 pour caler cela, caler ce que c'est véritablement la volonté de Jésus à notre égard. Luc 4, 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Amen. Voilà ce que le Seigneur veut faire. Proclamer une bonne nouvelle aux pauvres, il a été envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles, le recouvrement de la vue. Alors on va me dire, mais peut-être qu'ici il n'y a pas de captifs, il n'y a pas d'esclaves, qui dit captivité dit esclavage. Peut-être que quelqu'un va me répondre, mais moi je ne suis pas esclave. Eh bien, dans l'évangile on trouve certaines personnes qui ont réagi comme ça. Et j'aimerais que nous puissions aller dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, et voir succinctement juste un entretien de Jésus avec des hommes de son temps, des pharisiens, des maîtres de la loi, des hommes qui étaient religieux. Et nous allons lire à partir du verset 33, chapitre 8, verset 33. Donc ce sont les pharisiens qui répondent à Jésus. Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres ?» en vérité, je vous le dis, » leur répliqua Jésus, « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le fils y demeure toujours. Si donc le fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et je répète cette parole qui est là sur mon cœur ce soir. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous serez une nouvelle personne, quelqu'un avec une identité différente. Parce que l'esclave, il n'a pas la même identité que celui qui est libre. Celui qui est esclave, sa vie ne lui appartient pas. Mais celui qui est libre, il a une nouvelle identité. Et ce que Jésus se propose de faire, faire ce soir, c'est de faire de nous des personnes libres, à condition que nous ayons les cœurs ouverts, à condition que nous venions à lui avec humilité, et non pas comme ces hommes. Je suis obligé d'être direct, parce que je voudrais pas prendre beaucoup de temps ce soir, mais je n'ai pas le temps d'expliquer certaines choses. Mais ces hommes, ils étaient suffisants face à Jésus. Et ils ne se sont pas vus esclaves du péché, parce qu'il ne s'agit pas là d'esclavage, physique en tant que tel. Mais tout homme qui naît sur cette terre, qui grandit, dans sa conscience, il va y avoir quelque chose qui l'accuse devant Dieu. Alors bien sûr, ce ne sont pas des paroles qu'on entend tout le temps aux informations, qu'on traverse actuellement, les informations. Moi, j'écoute même plus les informations, pour vous dire, j'allume même plus. Est-ce un mal? Non, je préfère me renseigner différemment. Bon, bref, je referme la parenthèse. Mais je ne crois pas qu'on entende ça en ce moment, que l'homme naît et gît, c'est-à-dire qu'il est sous la puissance du péché. Et quelqu'un dans la Bible a bien expliqué, et on va aller dans Romains, c'est pour ça que je préfère prendre les textes bibliques, parce qu'on n'a pas trop le temps de les expliquer. Dans Romains, au chapitre 7, par des paroles simples, l'apôtre Paul nous explique qu'est-ce que le péché et comment il agit dans le cœur de l'homme. Verset 17. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Voilà de quoi le Seigneur se propose de nous délivrer. Il y a là, dans l'homme sans Dieu, il y a là une loi qui est là depuis que Adam et Ève ont péché dans ce jardin, c'est-à-dire qu'ils ont choisi d'écouter une autre voix que celle de Dieu, choisi d'écouter la voix du diable. Il y a cette loi qui est là dans le cœur de l'homme et qui est puissante. Elle est puissante jusqu'à le diriger, elle le maîtrise. Il veut faire le bien, mais il ne peut pas faire ce bien. Il ne peut pas. Il voudrait faire le bien, mais il ne peut pas. Alors on va me dire, mais non, mais moi je suis pas un meurtrier, je ne suis pas, un criminel, etc. Mais déjà, l'homme désobéit à ce commandement, tu adoreras le Seigneur de ton Dieu, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Tu adoreras ton Dieu et tu le serviras lui seul. Dieu nous a créés pour que nous puissions servir sa gloire. Dieu nous a créés pour que nous puissions l'adorer. Dieu nous a créés pour que nous puissions vivre sa liberté, vivre véritablement cette vie qui est capable de dire oui au bien, non au mal. Et tant que l'homme n'a pas expérimenté la délivrance par Jésus-Christ, eh bien, il voit une loi qui est là, dans son cœur. Alors, pour un temps, il va essayer de faire le bien, mais il va encore chuter. Si ce n'est pas dans tel domaine, ce sera dans un autre. Parce qu'il y a là une loi qui a besoin d'être annihilée, qui a besoin d'être annulée, qui a besoin d'être vaincue par une autre loi. C'est la loi de l'esprit de vie. Et cette loi, nous allons la voir au travers du texte que nous allons méditer ce soir. Il y a besoin, dans notre cœur, d'une nouvelle loi, dans notre vie, dans notre âme, dans notre pensée, dans notre façon d'agir. Il y a besoin que cette loi du péché soit entièrement abattue, entièrement vaincue. Et il y a une bonne nouvelle ce soir. Il y a une bonne nouvelle qui provient du trône du Seigneur Jésus, qui provient de ce trône de la grâce. Dieu nous délivre de cette puissance du péché. Dieu ce soir, par la puissance de sa parole, peut délivrer quelqu'un qui gît encore sous cette loi. Et même, je dirais, un croyant qui a fait la paix avec Dieu, mais qui lutte encore aujourd'hui parce qu'il ne vient pas au Seigneur encore chaque jour, parce qu'il n'a pas compris qu'il faut encore avancer dans cette sanctification. Le Seigneur, ce soir, se propose de délivrer. À nous de venir à Jésus, pas physiquement, ne vous approchez pas d'ici, mais venons à Jésus dans notre cœur et nous allons réaliser que le Seigneur peut faire encore une œuvre puissante. Alors, allons dans l'Évangile au chapitre 9 de Jean et que le Seigneur puisse nous éclairer ce soir. Chapitre 9, la lecture sera un peu longue, mais après avoir ainsi présenté le message, j'aimerais que laisser toute la place à la parole de Dieu. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question : Rabbi, qui a péché ? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ? Jésus répondit : Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit : Va et lave-toi au réservoir de Siloé, ce nom qui signifie envoyé. Il y a là, se lava et s'en retourna, voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient : N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait ? Les uns disaient : C'est lui. D'autres disaient : Non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait : C'est moi. Ils lui dirent donc : Comment tes yeux ont-ils été ouverts ? Il répondit : L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit : Va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. Ils lui répondirent : Où est cet homme ? Il répondit : Je ne sais. Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens lui demandèrent comment il avait pu voir. Et il leur dit : Il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent : Cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'autres dirent : Comment un homme pécheur peut-il faire de tant de miracles ? Tel miracle. Il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle : Toi, que dis-tu de lui, sur ce qu'il t'a ouvert les yeux ? Il répondit : C'est un prophète. Les Juifs ne crurent point qu'il avait été aveugle et qu'il avait pu voir, jusqu'à ce qu'ils aient fait venir ses parents. Et ils les interrogèrent, disant : Est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle ? Comment donc voit-il maintenant ? Ses parents répondirent : Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant, ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même, il a de l'âge, il parlera de ce qui le concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs avaient déjà convenu que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents lui dirent : Il a de l'âge, interrogez-le lui-même. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent : Donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme, c'est-à-dire Jésus, est un pécheur. Il répondit : S'il est pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Ils lui dirent : Que t'a-t-il fait ? Comment a-t-il ouvert les yeux ? Il leur répondit : Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous entendre encore ? Voulez-vous aussi devenir ses disciples ? Ils l'injurièrent et dirent : C'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous savons d'où il est. Cet homme leur répondit : Il est étonnant que vous ne sachiez pas d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle, né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent : Tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes ? Ils le chassèrent. Jésus apprit qu'ils l'avaient chassé. Et l'ayant rencontré, lui dit : Crois-tu au Fils de Dieu ? Il répondit : Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ? Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit : Je crois, Seigneur, et il l'adora. Amen. Amen. Quel texte ! Et je vous avoue que, en préparant ces moments, quand je méditais sur ce texte, je me disais, Seigneur, j'ai pas la capacité d'enseigner et je ne l'ai toujours pas. Mais je voudrais, puisque le Seigneur me l'a mis à cœur, je le crois, simplement partager quelques objets de méditation avec vous ce soir concernant ce texte. Parce qu'il renferme bien des richesses et nous ne devrions pas passer à côté. D'abord, on va placer le contexte. Nous sommes après la fête des tabernacles et Jésus a été confronté aux pharisiens, ces gens religieux. Ils étaient là et suite à un échange assez vif où Jésus leur répondait calmement mais avec cette vérité, dite dans l'amour mais avec sévérité aussi, il est dit au verset 59 du chapitre 8 qui est juste au-dessus et c'est le dernier verset du chapitre 8, il est dit « Là-dessus, les pharisiens pirèrent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et il sortit du temple. » Voilà le contexte dans lequel cet aveugle-né va être abordé par Jésus. Jésus est en train de se cacher, il vient de sortir du temple, il a été maltraité par ces pharisiens, ces hommes religieux. Et néanmoins, il est dit dans ce verset 1 que Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Et j'aimerais vous dire que ce soir, c'est un temps favorable. Même si vous ne savez pas comment vous avez pu venir ici, vous étiez pressé, vous vous êtes dit peut-être que je vais venir à la réunion, etc. Je ne savais pas. Le fait est que vous êtes là ce soir et que le Seigneur l'a promis, il est là aussi par son esprit. Mais ce n'est pas suffisant. Là où il est, le Seigneur veut encore communiquer une grâce, communiquer la vie. Et Jésus passe et il voit cet aveugle-né qui est en train de mendier. Et seul Jésus voit ce qu'il y a dans le cœur de cet homme. Moi, je ne sais pas. La Bible ne le dit pas. Mais il est dit que Jésus le vit. Et certainement, Jésus s'est arrêté, parce que le regard de Jésus, quand il regarde une personne, ce n'est pas un regard d'étonnement, mais souvent, c'est un regard de compassion face à celui qui est dans la souffrance, face à celui qui est dans la solitude, face à celui qui n'a plus d'espoir. Cet homme vivait mendiant, je ne sais pas, mais vous avez vu ses parents, dans quel état aussi de morale ils étaient. Ça nous laisse un petit peu présager de ce qui se passait à cette époque-là dans le peuple de Dieu. Eh bien, Jésus regarde cet homme avec compassion. Et le Seigneur, ce soir, nous regarde encore avec compassion, parce qu'il a choisi. Il a donné sa vie pour cela. Il a manifesté son amour à la croix. Il a choisi de nous regarder ce soir, jusqu'à ce que les temps de la grâce se terminent, de nous regarder avec compassion. Et Jésus, et alors, c'est terrible, parce que Jésus regarde cet homme, mais les disciples, ils le regardent différemment. Et ils vont dire, verset 2, mais qui a péché, maître, rabouni, rabbi, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Alors, est-ce que cet homme avait pu pécher? Il est né aveugle. C'est terrible parfois, la façon dont on a, qu'on a de généraliser les choses, d'enfermer les gens dans une condamnation. Et seul Dieu peut juger certaines situations. Même Dieu peut donner à une personne d'avoir le discernement de la situation de quelqu'un, mais toujours avoir cet amour pour communiquer à cette personne son état. Et Jésus va balayer cette question de la malédiction. Il va la balayer en disant, ce n'est pas lui ou ses parents, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Amen. Oui, amen, parce que nous, même croyants, parfois on se laisse enfermer dans des visions, dans des façons de voir les choses, et on enferme, peut-être pas à voix haute, mais on peut enfermer quelqu'un, manquer de discernement, manquer d'amour, et enfermer quelqu'un dans une malédiction alors que Dieu voudrait communiquer à une personne une parole d'encouragement, une parole de vie. Et Jésus va dire, mais cette situation, elle est comme ça, et depuis un certain temps, pourquoi ? Pour la gloire de Dieu. Alors cette parole nous interroge. J'aimerais aussi, c'est peut-être un message d'évangélisation, mais aussi c'est un message pour nous croyants. Est-ce que nous sommes toujours disponibles pour faire le bien, même quand nous sommes pressés? Là, Jésus, il était un petit peu, pris par la situation, mais il va s'arrêter pour cet homme. Et quand Jésus s'arrête pour quelqu'un, le reste n'a plus d'importance. Le Seigneur est puissant pour garder cette situation, ce rendez-vous entre lui et un être humain, comme dans une parenthèse dans le temps. Une parenthèse. Et quiconque va à la croix de Jésus va à un temps, à un endroit si particulier où il n'y a que Jésus. et on ne peut s'adresser qu'à lui. Qui a péché ? Je ne sais pas pour vous, mais moi je me suis reconnu là, dans cette parole. Qui a péché ? Alors c'est lui, c'est bien, cette personne, ce frère, cette sœur, cette personne, elle est dans cette situation. Pourquoi ? Parce que ceci, parce que cela. Pas d'effet, pas de... Le Seigneur balaye la relation de cause à effet. Il la balaye. Cette situation, elle est pour la gloire de Dieu. Et il faut que je fasse les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Il le dit, il fait jour. Et le jour va bientôt se terminer. Le jour de la grâce de Dieu. Le jour de la grâce de Dieu va bientôt se terminer. Et c'est encore un temps ce soir pour entrer dans la grâce de Dieu. Accepter le salut en Jésus-Christ. Accepter la main que le Seigneur Jésus vous tend en cette soirée. Même à toi qui es croyant. Même à toi, mais tu t'es peut-être éloigné de lui. Et le Seigneur nous rappelle à lui ce soir. Cette situation, elle a la gloire de Dieu. Je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre, etc. Il va faire de la boue. On va peut-être revenir sur ce passage après. Il va faire de la boue avec sa salive et de la poussière. Il va le mettre sur les yeux de cette personne. Et il va lui dire, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Extraordinaire. Extraordinaire. Une parole, mais cette parole, elle a besoin de foi dans le cœur de celui qui la reçoit. Alors, entre le réservoir de Siloé et le temple, il n'y avait pas beaucoup de distance, il y avait à peu près 600 mètres, si je ne me trompe pas, ça sera coupé à l'enregistrement si je me trompe, mais à peu près 600 mètres, hein, c'était au sud de Jérusalem, j'ai regardé, mais cet homme était aveugle, il a fallu qu'il croie, il a fallu qu'il manifeste sa foi, comment ? En obéissant, en allant. Il n'a pas dit « je crois », il y est allé, et ce soir, le Seigneur veut nous encourager à venir à lui. Parce que Siloé, ça veut dire envoyé. Et qui est l'envoyé, si ce n'est Jésus ? Si ce n'est Jésus. Va te laver, va te laver. Combien on a besoin d'avoir, non pas notre corps physique, mais notre conscience spirituelle. Que le Seigneur puisse nous laver. Il est dit dans les Épîtres que Jésus est venu, non pas simplement avec le sang, mais avec l'eau, l'eau de la purification. Et Jésus a fait notre justification par son sang qui a coulé, parce que le péché mérite la mort, c'est le salaire du péché, la mort. Mais Jésus est venu aussi avec de l'eau pour nous purifier. L'homme ne peut pas vivre avec une conscience chargée. L'homme ne peut pas vivre avec une conscience salie. L'homme ne peut pas vivre avec cela sur son cœur. Et combien de situations morales désespérées, combien de situations de personnes qui sont physiquement alertes, physiquement en bonne santé, matériellement en bonne santé, mais la conscience chargée. Et on entend que telle personne s'est fait du mal de telle et telle manière. Telle personne était addict à ceci ou à cela, c'est-à-dire à une addiction, à telle et telle chose, vivait dans tel et tel mal, tenu par le mal, cette loi du péché qui était là. Mais sur la parole de Jésus, il va aller. Je ne sais pas à quoi il s'attend. Jésus lui a mis de la boue. On n'entend aucunement la parole de cet homme. Là, c'est vraiment une grâce de Dieu. C'est Jésus qui l'a regardé et qui veut lui manifester quelque chose de bien. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Alors c'est peut-être que là où il nous faut revenir à ce temps où Jésus va faire de la boue avec sa salive. Et peut-être pour le comprendre, il nous faut voir qu'est-ce que cet homme a fait par la suite. Parce que je suis comme vous, je n'ai pas compris ce texte la première fois que j'ai lu, même la deuxième, même la troisième, j'ai lu plusieurs fois l'évangile de Jean, et je n'ai pas la prétention de connaître toute la portée de ce texte. Mais je crois que au travers du témoignage de cet homme, le Seigneur peut nous montrer qu'est-ce qu'il a fait et nous faire réaliser qu'est-ce qu'il veut faire avec nous. Parce que Jésus, il aurait pu dire simplement une parole. Il y a d'autres cas de guérison d'aveuglement dans la Bible. Oui ou non ? Est-ce que vous en connaissez ? Bartimée ? Seigneur, Seigneur ! Et on lui barre la route, etc. Et puis, le Seigneur va se manifester à lui. Quel autre cas ? Il y a ces deux aveugles à Jéricho qui vont haranguer Jésus. Il y a un autre cas de cet homme qui à Bethsaïda qui a été aussi guéri de cet aveuglement. Jésus aurait pu dire un mot et dire sois guéri. Et Jésus a guéri aussi beaucoup d'autres aveugles. Beaucoup, beaucoup d'autres aveugles. Mais Jésus va faire les choses différemment. Il va cracher par terre et il va faire de la boue avec sa salive. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire tout simplement que le Seigneur veut nous enseigner au travers de ce miracle. Il veut nous enseigner. Il veut faire passer un message. Et ses apôtres, qui peut-être n'ont pas le compris sur le moment, vont le comprendre plus tard, puisque c'est dans le canon des Écritures. Et le Seigneur veut nous faire comprendre quelque chose. Et il nous faut le saisir. Et celui qui cherche, trouve. Et il faut persévérer pour avoir certaines réponses de la part de Dieu. Alors, je crois que le témoignage de cet homme peut nous répondre. Qu'est-ce qu'il va dire au verset... Au verset 11, il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé, lave-toi, j'y suis allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. » Première fois. Deuxième fois, il leur dit au verset 15, pardon, « Il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. » Et encore plus loin. Il leur dit, verset 27, il leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit et vous ne l'avez pas écouté. » Et il va aller plus loin. Qu'est-ce qu'il leur dit encore? Qu'est-ce qu'il leur dit? Au verset 31, « Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » C'est l'aveugle, l'ex-aveugle qui parle. Et nous réalisons dans ce qu'il dit, qu'il a vécu quelque chose d'extraordinaire. Il a été entièrement délivré. Il n'a pas été simplement guéri de sa déficience, comment dire, physique, de ses yeux qui ne voyaient pas, de ses yeux. Alors certains disent qu'il n'avait pas d'yeux, des yeux, d'autres. Enfin bref, il y a différentes. Mais peu importe, il n'y voyait pas depuis sa naissance. Et il a, en quelques heures, en quelques temps, il est devenu une personne nouvelle, un homme nouveau, capable de témoigner devant les autres, qui n'est plus chétif, en train de mendier. Vous avez vu les gens quand ils mendient, c'est pas facile de mendier. Enfin, c'est difficile cette situation, c'est humiliant. Il n'est plus dans cette humiliation. Il n'a pas peur de répondre à ceux qui osent, entre guillemets, mettre en doute ce qu'il a vécu. Il n'a pas peur de ce que, il n'a pas honte de ce que la façon dont ses parents ont répondu. Il n'a pas honte d'être amené devant les pharisiens. Il n'a pas honte de les reprendre. Il ne connaissait peut-être pas grand-chose. C'était quelqu'un du peuple. Il était méprisé par les religieux. Mais pourtant, il va les enseigner. Il va leur dire, mais nous savons que si un homme ne vient pas de Dieu, il ne peut pas faire ces choses-là. Et il dit, mais c'est étonnant de votre part que vous ne sachiez pas ces choses, vous qui nous dirigez. Il va les reprendre avec sévérité, mais aussi avec cette sagesse que donne l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu ne peut pas reposer sur une créature qui n'a pas été transformée, qui n'a pas accepté le Seigneur Jésus. Et je crois que cette boue et cette salive, ça nous parle de l'homme, de la chair, de notre chair, de ce que nous sommes. Et Genèse chapitre 2, ne le cherchez pas, je vais vous le lire. Genèse chapitre 2 nous dit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. » On peut aller dans Job 33, le verset 6. « Devant Dieu, je suis ton semblable. J'ai été comme toi, formé de la boue. » Cette boue ne parle pas de l'impureté de l'homme. Cette boue ne parle pas, comment dire, de la salissure. Cette boue parle de ce que nous sommes, de ce que nous sommes, de quoi Dieu nous a tirés. On peut aller dans le psaume 40, le verset 1 à 3. « Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas. » Psaume 69, verset 1 à 3, et on arrêtera sur ce texte-là. « Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie, j'enfonce dans la boue. » Sans pouvoir me tenir, je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'inondent. Dieu nous a fait naître de cette glaise, de cette terre, mêlée à de l'eau. Et ce que Jésus va faire, il va reprendre de la terre, d'où nous sommes sortis, et il va mettre un peu de salive. Alors, on peut pas faire un cataplasme très gros avec de la salive. Excusez-moi, je donne mon interprétation, pas faire grand chose. Mélanger un peu de terre avec de la salive, ça fait pas beaucoup de matière. Mais il va oindre les yeux de cet homme avec de la terre où, foulée par tous les hommes, de ce que nous sommes. Nous avons été tirés de la terre. Et il va y mêler sa salive. La salive de celui qui n'a pas péché. La salive de celui qui va donner sa vie, la salive de celui qui est pur, la salive de celui qui est la vie. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Et le Seigneur il nous enseigne comment qu'il est en train de faire de cet homme un homme nouveau. Un homme nouveau. Et ce que le Seigneur veut faire de nous, c'est des personnes nouvelles. C'est que nous puissions naître de nouveau à la vie. Alors oui, il n'a pas, changé de corps, c'est juste, ses yeux sont revenus, il s'est lavé, les yeux ont apparu, il a vu. Mais je crois que le Seigneur nous parle de ce que nous sommes, tout simplement. Et ce qu'il veut faire dans l'homme qui lui a rien demandé, qui souffre, qui ne réalise pas son état de dépérissement, son état de péché, son état qui est loin de Dieu, qui ne pouvait même pas s'imaginer être touché par Dieu, être interpellé par Dieu. Il intervient dans la vie d'un homme. Il lui montre qui il est et il fait en lui une œuvre nouvelle. Il fait de cet homme un homme nouveau et il lave et il dit à cet homme, va te laver à l'envoyé, à Jésus. Et c'est Jésus, il nous lave et il fait de nous une personne nouvelle et il nous rend libres. C'est pour ça que j'ai lu ce passage où il est dit que Jésus veut nous affranchir. Si Jésus ne nous affranchit pas, nous restons des esclaves. Mais il veut faire de nous des personnes nouvelles, des personnes qui sont libres réellement, des personnes capables, qui sont capables de dire oui au bien et non au mal, capables de vaincre cette loi du péché. Et qu'est-ce que va faire cet homme ? Il va manifester cela. Il va être capable de témoigner devant les autorités, les plus hautes autorités dans cette ville, dans ce pays, des gens calés sur la doctrine, etc., trop calés même. Et il va être capable de leur répondre et passer cette épreuve de la vie. Quelle épreuve difficile que de passer devant ces gens. Et voilà, on voit ce que peut être la vie avec Jésus, être touché, être transformé, être guéri, avoir une vie nouvelle et néanmoins être confronté à l'adversité du monde tout de suite, alors qu'on vient tout juste recevoir cette vie, tout de suite être confronté à la dureté du monde et néanmoins recevoir une puissance pour répondre. Une puissance pour vivre de la grâce de Dieu dans ce monde et être capable de reprendre ceux qui nous demandent, qui posent question sur notre salut. Le Seigneur est capable de nous assister. Et passer cette épreuve, que va-t-il se passer pour cet homme ? Il va retrouver Jésus. C'est Jésus qui va apprendre la façon dont il a répondu, la façon dont il a témoigné devant ces hommes. Et Jésus va le retrouver. Et ça nous parle, nous aussi, croyants, que si nous savons mettre notre confiance en Jésus, lui faire confiance, retrouver ce feu du premier amour, avoir ce zèle pour la maison de l'Éternel, eh bien le Seigneur nous verra dans nos épreuves. Si nous savons les affronter, être patient dans l'épreuve, réclamer de lui la grâce de traverser l'épreuve, le Seigneur nous retrouvera. Et il ne va pas nous retrouver n'importe comment. Il va nous retrouver avec des bras chargés de bénédictions. Cet homme, il ne va pas repartir à vide. Il avait expérimenté la guérison de Jésus. Il avait expérimenté les mains de Jésus sur ses orbites. Il avait expérimenté l'amour de Jésus pour lui, lui qui n'avait de rien demandé, alors que ses parents même le rejetaient. On va pas trop le temps de le voir. Mais là, enfin, il peut le voir. Et moi, ça me rappelle la vie chrétienne. Heureux ceux qui ont cru sans l'avoir vu. Heureux serez-vous. Nous sommes heureux si nous croyons en Jésus, si nous l'avons expérimenté, parce que nous le verrons un jour face à face. Un jour nous le verrons face à face et nous saurons comment nous avons été aimés. Nous saurons comment il est notre Seigneur Jésus. Et que vienne ce jour, mais en attendant ce jour, le Seigneur voudrait que beaucoup une multitude, expérimente la grâce de Dieu, expérimente la main de Jésus sur votre vie, l'onction du Saint-Esprit sur votre vie. Être capable d'être une personne, non pas être capable, mais recevoir cette vie nouvelle. Recevoir cette vie qui triomphe de la mort, qui triomphe de tout. La vie, elle est puissante. Alors je disais ça, je ne sais plus à qui, mais j'avais un reportage sur Tchernobyl. Vous savez qu'à Tchernobyl, sur cette ville actuellement, il y a une forêt qui repousse. Il y a des animaux, il y a des rapaces, il y a plein de toutes sortes d'animaux. Seul l'homme ne peut pas y vivre. Et d'ailleurs, il y a des cancers tout autour, etc. Mais sur la ville de Tchernobyl, il y a des arbres qui poussent. C'est impressionnant. La vie, elle est puissante. Et Jésus, il est la vie. Et rien ne peut prévaloir contre la vie. Même pas la mort. La mort n'a pas pu retenir Jésus. Jésus, il est la vie. Et ce soir, si vous choisissez de lui faire confiance, Jésus peut vous communiquer cette vie. Et cette vie, elle vous libérera du péché. Du péché le plus vil qui vous tient, le Seigneur est capable de vous délivrer de cela. Et vienne ce jour, nous le rencontrerons face à face. Prions le Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Jésus. C'est toi qui fais l'œuvre. C'est toi. Tu n'as rien demandé à personne. Et Seigneur, tu as vu cet homme. Seigneur, tu l'as pris à part. Tu as, Seigneur, pris du meilleur de toi-même. Seigneur, une goutte de ta salive. Toi, le Saint. Toi, l'agneau de Dieu. Tu as communiqué ta vie. Tu as donné ta vie sur cette croix. À combien plus forte raison ce soir, Seigneur, par cette vie que tu as donnée et qui est ressuscitée, tu veux communiquer la vie à celui, Seigneur, et moi le premier, ce qui s'approche de toi, Seigneur, ce soir. Alors oui, Seigneur, tu connais. Tu connais ce qui nous afflige, ce qui nous fait souffrir. Tu n'es pas insensible à cela, mais tu veux faire de nous, Seigneur, beaucoup plus. Tu veux faire de nous des hommes et des femmes nouvelles en toi. Des hommes et des femmes capables d'affronter, Seigneur, ici-bas, cette vie. Et de donner gloire à Dieu, être des témoins. Et Seigneur, ce soir, je le crois, tu veux bénir. Tu veux sauver. Tu veux guérir. Tu veux manifester ta vie. Alors, Éternel, que ton Saint-Esprit agisse dans nos cœurs, dans nos vies. Bénis, Seigneur, celui qui se réclame de toi ce soir. Amen. Restons recueillis. Restons un peu dans le silence et laissons le Saint-Esprit venir un peu travailler notre cœur dans ce temps si particulier qui est mis à part dans ce monde, dans cette réunion que Dieu a voulu pour que les hommes entendent le message de la prédication de l'Évangile. Merci Jésus.